Get down.
Bonjour à toutes et à tous, installez-vous, c'est l'heure de votre thérapie pop. Paid the cost to be the boss. Paid the cost to be the boss. I paid the cost to be the boss. Chers amis, nous sommes encore une fois très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Thérapie Pop, l'émission qui explore avec vous la musique contemporaine des années 50 à demain. Comme à l'accoutumée, c'est de Gauthier que je suis accompagné pour la thérapie de cette semaine. Salut Gauthier.
Et salut mon cher Théo.
Un Gauthier heureux, j'imagine, puisque non satisfait d'avoir, la semaine passée, commencé son exploration de l'album Pet Sounds des Beach Boys, avec les morceaux que l'on peut bien qualifier de tubes, God Only Knows et Wouldn't Be Nice. Il a décidé, et c'est avec plaisir que je le suis dans ce choix, de se plonger la tête entière dans cet album. Chef-d'œuvre des Beach Boys, je rappelle que Pet Sounds est sorti en 66 et que nous fêtons donc
les 60 ans.
60 ans.
On est bon en maths.
Ouais. C'est un album, et c'est assez rare pour être souligné, qui a fait l'unanimité dans les années 60 et continue à la faire de nos jours. Il y a beaucoup à dire pour comprendre comment les Beach Boys ont réussi ce tour de force, et c'est pourquoi on va s'attaquer directement à son analyse. Parce que avant 66, il y a eu 65, et nous avons une tête pensante.
Vraiment très bon en maths. Hein.
Ouais.
C'est impressionnant. Et avant 65,
j'ai pris des cours du soir. Et 64.
Eh ben c'est très bien. Je te félicite. Ouais. Je ne te demanderai pas plus.
En 65, on avait une tête pensante, Gauthier, Brian Wilson, qui se cloître.
Oui, en 65, Brian Wilson commence à pas aller fort fort. Ça finira vraiment pas bien bien, puisque les années suivantes seront des grandes périodes de dépression pour lui. Mais effectivement, 65, et avant l'enregistrement de Pet Sounds, ou dans le cadre de l'enregistrement de Pet Sounds, Brian Wilson est un homme qui arrête purement et simplement les tournées pour se concentrer uniquement sur l'écriture, la composition, l'enregistrement, choisissant sa propre solitude comme un catalyseur créatif. Bon, ça a marché, hein, mais ça n'a pas très bien été, ça n'a pas très bien fini pour lui. mais c'était bien pour la musique.
Il se cloître, mais il ne refuse toutefois pas la compagnie du discret, mais très efficace, Tony Asher.
Tony Asher, effectivement, le duo va permettre notamment à ce cher Brian d'aller vers des textes qui sont plus structurés, des textes plus mûrs. Je rappelle que les Beach Boys, à l'époque, ont encore la réputation de groupe phare de la surf music. Surf music qui, comme son nom l'indique, est une musique de surfeur, en principe, enfin voilà, mais on va dire quelque chose d'un peu plus léger, où on chante « je t'aime, toi aussi », et puis voilà. Ben là, on va sur des textes plus matures grâce à ce bon Tony Asher.
Et on le sait, les années 60 sont des années de recherche, d'expérimentation pour tous ces groupes pop, qu'ils soient anglais ou américains, et on cherche parfois l'inspiration chez les copains, Gauthier.
Chez les copains et non-rivaux, à savoir les Beatles. Je vais te donner deux exemples très particuliers. Quelques années auparavant, si ce n'est quelques mois auparavant, les Beatles ont commencé à inventer quelque chose qui est le concept album avec Rubber Soul, c'est-à-dire l'idée de présenter des albums qui ne sont plus des micmacs ou des mix de singles diverses et variées, mais des albums construits dans leur intégralité comme une œuvre unique, comme une œuvre qui se tient de bout en bout. On sait que beaucoup, beaucoup d'artistes après sauteront sur ce type de format. David Bowie, les Who avec Tommy, qui est carrément un opéra. OK Computer, qui est considéré comme un concept album. Mon cher Théo, je te parle de Radiohead parce que je sais que ça fait vibrer ton petit cœur. Donc ça, première inspiration des Beatles. Deuxième inspiration des Beatles, qui était définitivement toujours un coup devant tout le monde. Déjà, les Beatles avaient commencé à utiliser le studio d'enregistrement comme un instrument à part entière. C'est-à-dire qu'on ne compose plus de la musique à proprement parler pour des lives autour de structures guitare, basse et tout, mais on essaie d'aller chercher dans le studio des sonorités très différentes et un travail plus éclectique, on va dire. Et dans un studio, on peut trouver des choses plus atypiques comme des clavecins, des sonnettes de bicyclette, des thérémines, enfin plein de choses beaucoup plus étranges. On va aussi travailler l'enregistrement de façon différente, on va pas rester plus longtemps en studio, on va faire plusieurs prises d'une même piste, etc., etc. Et ben là aussi Brian Wilson va utiliser cette façon nouvelle que les Beatles ont de travailler en studio pour son album Pet Sounds, qui sera non seulement un album concept, mais aussi un album très, très, très extrait de tout ce qu'un studio peut offrir à des musiciens de l'époque.
Et j'ai deux questions, Gauthier. Alors, la première, c'est pourquoi ce titre? Et ensuite, pourquoi cette amusante pochette?
Alors, je peux t'y répondre à un seul et unique tour de main.
C'est vrai.
Effectivement, Pet Sounds, qui est le son des animaux, où on voit sur la pochette les membres des Beach Boys qui sont en train de donner à manger dans un zoo, hein, plus ou moins, je crois que c'est des biquettes.
Ouais, c'est une espèce de brebis ou de mouton.
On va les appeler les petites biquettes.
Allez, si tu veux.
Terme générique symbolique de, pour cette espèce.
Des caprins.
Dont on fait des fromages et de bons méchouis. Pourquoi ? Parce que notre cher Brian Wilson est inspiré notamment par ses chiens, Banjo et Louis, et dit qu'il adore les sons des animaux, les sons des zoos. Clin d'œil un peu ludique et qui sera toujours très inspirant pour Brian Wilson, puisque notamment avec l'album qui viendra plus tard, Smile, on retrouvera souvent des choses extrêmement étranges, comme des bruits de ferme, des bruits de poules, on dépasse le studio pour la peine.
Largement.
On en sort très largement. À moins qu'ils aient fait venir la petite biquette dans le studio, je ne sais pas, l'histoire ne l'a pas dit. Voilà. Mais voilà, mon cher Théo, pourquoi ce nom d'album et pourquoi cette pochette ?
Ok, merci. Qu'est-ce qu'on s'écoute ?
Elle est pas très belle d'ailleurs.
Non, elle est pas canon.
Elle est vraiment pas ouf. Ouais. Mais les pochettes des Beach Boys sont souvent pas ouf comparées aux pochettes
des Beatles.
Merci, mon cher Théo.
Oui, je t'en prie.
Je te donne juste une toute petite anecdote finale avant de te mettre Nice. L'album est enregistré en mono, alors qu'à l'époque on commence à démocratiser la stéréo, pour deux raisons principales. D'abord, Brian Wilson considère que le mono est plus fonctionnel avec des harmonies. Pourquoi ? Parce que vu que le son sort en bloc, l'harmonie est moins déchirée entre ton oreille droite et ton oreille gauche. Et aussi, parce que notre bon Brian Wilson s'était fait flinguer un tarpement par son cher père, et qui donc il a toujours enregistré en mono.
Le stéréo, c'est plus compliqué.
Et le stéréo était beaucoup moins agréable pour lui, donc il a, je crois, sauf erreur de ma part, mais toujours enregistré en stéréo. À noter que les Beatles avaient réédité il y a peu de temps, enfin maintenant aussi il y a quelques années, toute leur discographie en mono, puisque eux aussi ont très longtemps enregistré en mono. Et quand tu écoutes les Beatles en mono et en stéréo, ce n'est pas la même musique. Mais vraiment, c'est étonnant.
C'est
parce qu'ils vont même se rajouter parfois des choses sur la stéréo pour justement pouvoir jouer avec ce côté droit, ce côté gauche. Et quand la composition était faite pour du mono, et ben le passage en stéréo est parfois un peu arrachant pour les oreilles, enfin écorchant pour les oreilles plutôt.
Je comprends. Tu me rappelles ce qu'on s'écoute ?
Non. La première piste de l'album
qui s'intitule Wouldn't Be Nice.
Wouldn't Be Nice.
C'était donc, et je vais dire une dernière fois, Wouldn't Be Nice.
Et une bien belle chanson avec un titre imprononçable.
Alors, quand je disais en introduction, Gauthier, que l'album a fait l'unanimité, c'est pas tout à fait le cas, notamment lors de sa sortie aux États-Unis, contrairement à l'Angleterre d'ailleurs.
Non, on parlait les dernières semaines de gens qui avaient fait des tubes en pensant que c'était pas forcément des tubes. Ben là, eux, je sais pas s'ils avaient l'ambition de faire un album tube, mais en tout cas, ça n'a pas très bien fonctionné. L'album n'est même pas certifié aux États-Unis tant il ne monte pas dans les charts, et la sortie est pour le moins discrète. Mais c'est au Royaume-Uni que l'album va trouver son premier écho, bien évidemment par l'intermédiaire des Beatles, qui ne sont pas leurs rivaux, mais plus leur, encore une fois, leur copain, et avec une émulation artistique commune. Et donc c'est plus par l'Angleterre qu'il va y avoir un effet de retour vers les États-Unis.
Ouais. Et on le disait avant de se l'écouter, à cette époque, les groupes s'inspiraient beaucoup les uns des autres. Et si Pet Sounds trouve quelques influences dans le Rubber Soul des Beatles, il va à son tour impulser un nouveau son chez nos amis de Liverpool.
Sir John Peppers, Paul McCartney dira que sans Pet Sounds, il n'y aurait jamais eu Sir John Peppers, puisque Paul McCartney se dira, on va dire, dépassé par Pet Sounds. Mm-hmm. Il verra ses albums comme voilà, et donc il voudra lui dépasser, on va dire, Sir John Peppers. Donc une fois, c'est une forme d'émulation artistique entre ce qui est les deux plus grands groupes de composition pop, je pense, de l'histoire, on peut le dire assez tranquillement. Je dis groupe hein, pour exclure notamment des gars comme David Bowie, etc., qui sont tout seuls. Mais vous aviez en Angleterre les Beatles, aux États-Unis les Beach Boys, et qui trustent à eux deux, je pense, 5 des 10 places, des 10 premières places des plus grands albums de tous les temps.
Et t'as d'autres témoignages que celui de ce bon McCartney au sujet de cet album mythique?
Tous les journaux, bien évidemment, et la presse internationale aujourd'hui considèrent que c'est un album tout à la fois techniquement unique, émotionnellement unique, spirituellement unique aussi. Tout est unique, de toute façon, dans Pet Sounds. Je dois bien dire que parfois, je trouve les commentaires sur Pet Sounds un tout petit peu surcotés. Mais bon, passons.
Tu disais que c'était le plus grand album du monde la semaine dernière.
Je dis qu'il est classé comme l'un des plus grands albums de tous les temps. Moi, je te dis pas que je le fous numéro 1. Beaucoup d'artistes, bien évidemment, le citeront comme leur référence. Les Beatles, on peut citer aussi Mogwai, par exemple. Enfin, plein de gens. Je vais pas te faire la liste, Théo, parce que ça serait épouvantablement long. Mais voilà, un impact absolument invraisemblable.
L'émission touche à sa fin, chers auditeurs. Vous l'aurez compris, les Beach Boys et Brian Wilson en particulier donc, ont sorti un album admirable en 66, en laissant de côté la surf music qui avait pourtant fait leur succès.
Et en y laissant sa santé mentale.
Certes, mais on les remercie, nous tous, pour ce choix, sans lequel on n'aurait pas eu Pet Sounds, donc, mais ni Sir John Pepper. Sachez que nous aurons le plaisir de vous retrouver dès la semaine prochaine pour une nouvelle thérapie où on en parlera, surprise Gauthier, d'Arcade Fire. Alors
pour la dernière de l'année, je ne pouvais pas ne pas te faire un petit cadeau.
Tu ne m'as pas pris mon préféré, mais... Allez, on parlera de Suburbs d'Arcade Fire.
Tu m'as dit de mettre des tubes, c'est l'un de leurs plus grands tubes, la chanson The Suburbs.
Je vous rappelle que cette émission est disponible en réécoute sur le site de Radio Présence et des radios partenaires, ainsi que sur toutes les plateformes de podcast. Une très belle semaine à vous, une très belle semaine à toi Gauthier.
Salut mon cher Théo.
Salut.